On l'évoquait il y a quelques minutes, ce dimanche, c'est jour de référendum en Équateur. Les 13 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur un arsenal de réformes dédiées principalement à la lutte contre les violences criminelles, priorité du président Noboa. Car depuis mi-janvier, le crime organisé fait régner une grave crise sécuritaire. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Lucie Laplace de l'Université Lyon 2, du laboratoire Triangle et fellow à l'Institut Convergence Migration. Bonjour madame.
Bonjour.
Quel est l'état d'esprit de la population vis-à-vis de ce référendum et de la situation sécuritaire en Équateur ?
Alors, la population est extrêmement préoccupée puisque depuis janvier, le pays traverse une crise sécuritaire sans précédent. On rappelle qu'il y a 47 morts pour 100 000 habitants en 2023 en Équateur, qui fait du pays le pays le plus dangereux d'Amérique latine. On est également sur une crise diplomatique avec le Mexique, oui, qui a eu lieu la semaine dernière. Mais aussi, on est face à une crise hydrique. Les personnes équatoriennes se sont vues couper l'eau pendant de nombreuses heures ces derniers jours. Donc, on est dans un état de crise généralisée qui est extrêmement préoccupant et ce qui rend d'autant plus versatile ce référendum.
C'est-à-dire versatile, c'est le résultat peut s'avérer difficile à prédire ?
C'est-à-dire dans le sens où ça va être un référendum qui va être un plébiscite ou pas au jeune président Daniel Noboa. Donc on va voir à quel point, malgré les difficultés de ces derniers mois, la population suit ou pas toujours le président.
Oui, le président Noboa a été élu en novembre dernier pour une période courte, le reste du mandat de son prédécesseur, donc un an et demi. On a l'impression qu'en quelque sorte, il joue son avenir politique.
Complètement. Une issue négative de ce référendum approfondirait la crise politique possible éventuellement s'il n'a pas un soutien important de la population. Il en est conscient.
Et vous évoquiez il y a quelques instants le fait que le pays est confronté à une triple crise. Dans le même temps, avec ce référendum, il est question de renforcer les pouvoirs de l'armée, d'alourdir les peines, de faciliter les extraditions. Certains partis et certaines organisations s'inquiètent de dérives en termes des droits humains. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de dérive, de bascule de l'Équateur vers un régime autoritaire ?
Oui, complètement, puisque quand on écoute Noboa, et notamment depuis cet automne, depuis son élection, il dit s'inspirer des réformes de Nayib Bukele au Salvador, qui est dans un régime autoritaire qui s'approfondit. On est aussi dans des opérations de police et de l'armée conjointes, dans les quartiers populaires où Human Rights Watch est dit préoccupé par le non-respect des droits humains des personnes qui sont arrêtées pour certaines de manière arbitraire. Et il y a également des enjeux de répression, notamment par rapport à des mobilisations de communautés indigènes avec des enjeux miniers sur leur territoire.
Et on entend bien qu'il y a à la fois ce risque de bascule multifactorielle avec des conséquences nombreuses vers un régime autoritaire. On a aussi l'impression d'assister à la faillite des institutions de l'Équateur depuis plusieurs mois. Il y a des états d'urgence à répétition, des annonces fortes qui sont faites sans résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Équateur peut vraiment avoir les moyens de reprendre le dessus ? Est-ce que les institutions ont en fait les capacités matérielles de reprendre le contrôle sur le pays ?
Alors, le choix de Noboa, c'est de s'appuyer sur l'armée. Il l'assume, il le proclame, il s'inspire du Salvador là-dessus. Il y a l'institution de la justice qui me semble particulièrement importante, qui fait son travail dans le sens où il y a eu des licenciements et des condamnations de juges corrompus, notamment dans le cas Metastasis en décembre dernier. Madame Salazar, qui est la procureure de la République, en charge notamment de ces grands procès de la lutte contre la corruption, fait un travail très important. Après, on a aussi quand même une Assemblée nationale qui est particulièrement partagée. On l'a vu ces dernières semaines sur les enjeux de la réforme du code pénal, sur lequel portent certaines questions d'ailleurs de ce référendum, et qui a vraiment partagé l'Assemblée, qui n'est pas arrivée à s'accorder pour le moment dessus. Donc on va voir quelles vont être les réponses de ce référendum qui vont redonner de l'eau au moulin à l'Assemblée nationale pour cette réforme du code pénal qui vise à durcir en fait la répression contre certains crimes et délits les plus graves, notamment pour lutter en gros contre les activités des organisations criminelles qui sont voilà qualifiées de terroristes par le président Noboa, notamment voilà depuis janvier, contre lesquelles il mène un conflit armé interne, selon ses propres termes.
Et j'ai une toute dernière question rapidement. On voit aussi dans ces réformes proposées d'autres qui sont plus socio-économiques. On parle notamment de contrats rémunérés à l'heure. Est-ce qu'on ne profite pas aussi de la crise sécuritaire pour faire passer d'autres mesures moins populaires ?
Complètement. Après, Daniel Noboa a un versant, on va dire, il n'y a pas que le versant militaire comme réponse à la situation équatorienne. Il y a aussi des réformes que lui entend être voilà plus politiques, économiques, sociales. Et lui répond par des mesures, par une proposition de flexibilisation en fait de l'emploi, qui s'inspire voilà des réformes néolibérales, on va dire assez classiques. Voilà, c'est assez préoccupant face à l'état du pays. À voir si ce sont des réponses appropriées, c'est aux Équatoriens bien sûr de juger ça.
Merci beaucoup, Lucie Laplace. On doit malheureusement mettre fin à l'interview, mais merci beaucoup pour vos explications.